Je vous invite à prendre de la hauteur. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette réflexion que je vais introduire par la lecture de deux versets, trois versets, dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 28. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il est bon en ce début d'année de se rappeler que Dieu est un Dieu d'éternité, créateur qui ne se lasse pas. Il reste constant dans ses promesses. Nous sommes souvent fatigués, chargés. Nous atteignons parfois la limite de notre résistance. Mais il faut savoir que Jésus a expérimenté aussi ce que nous ressentons. Il était dans un corps de chair comme nous. Il a de l'empathie pour nous. Il a connu la fatigue physique dans Jean 4, 6. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué du voyage, Jésus était assis au bord du puits. Nos corps à ces limites que nous devons apprendre à connaître. Aller au-delà peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé. Nous devons être raisonnables si nous ne voulons pas décharger nos batteries. Récemment, j'ai eu des problèmes de batterie avec ma voiture et je dois vous dire que c'est très gênant quand vous comptez sur elle à un moment précis et qu'elle vous fait défaut. Eh bien, il en est de même avec nous. S'il y a trop de fatigue, nous ne pouvons plus agir comme d'habitude. La moindre petite chose devient une montagne. Il y a les fatigues morales que Jésus a aussi vécues. Dans Marc 6, 31, nous lisons, « Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Ces fatigues morales, elles peuvent avoir différentes causes. Ça peut être les soucis que nous portons pour les nôtres, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ça peut être des rapports conflictuels que nous avons avec notre conjoint, nos relations, notre famille ou même l'Église. Il peut y avoir aussi les maladies qui causent ces perturbations morales. Et ces soucis nous empoisonnent la vie et celle des autres. Je mentionnerai aussi les soucis d'ordre spirituel. Jésus exprime son mécontentement à l'encontre de ses disciples, des scribes et de la foule. dans Marc 9, 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous ?» Et un homme sorti de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. J'ai prié tes disciples de chasser les mauvais esprits et ils n'ont pas pu. » Alors Jésus dit ces paroles assez fortes, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et il va même plus loin, « Jusqu'à quand vous supporterai-je ?» Oui, nous pouvons aussi exprimer des fatigues de ce type-là. Nous sommes déçus des chrétiens et notre tentation est parfois là de se dire « Mais à quoi bon ?» J'étais intéressé par cette remarque d'une cinéaste qui est interviewée et qui disait ceci « J'aime vraiment Dieu, mais j'ai beaucoup plus de peine avec son personnel au sol. » Toutes nos fatigues, quelles qu'elles soient, péjorent notre relation avec Dieu et avec les hommes. Et je lisais aussi dans ce même journal un article sur les Libans. Nous, les guerres, on nous a toujours dit de nous taire, d'attendre, de laisser faire, affirme un épicier d'un quartier de Beyrouth. Depuis l'explosion du port en août 2020, de nombreux chrétiens ont été lourdement affectés et pensent à nouveau que la force est le seul moyen de garantir leur pérennité. Ce climat séculaire qui dure depuis des décennies encourage un réarmement individuel. Un marchand d'armes illégales du sud du Liban déclare avoir vu ses ventes augmenter de plus de 80% depuis fin 2019. Et il dit « Je vends à toutes les confessions », dit-il. Mais ces derniers temps, les chrétiens sont devenus de bons clients. Alors, loin de moi l'idée de porter un jugement sur ces pauvres chrétiens libanais qui souffrent depuis de nombreuses années, d'un conflit dont on ne voit pas la fin. Ce que je veux souligner, c'est que lorsqu'on traverse des périodes difficiles, qui durent, ce n'est pas toujours évident de prendre des décisions qui soient équilibrées. La pression, l'oppression peuvent nuire à nos choix. Nous-mêmes, en Suisse, bien que nous sommes des privilégiés par rapport à ce que d'autres endurent dans d'autres pays, après 2 ans de corona, et là, il faut que je transforme mon texte à l'imparfait, puisqu'il vient d'y avoir un sérieux soulagement avec l'abandon des restrictions, nous commencions à en avoir ras-le-bol. Nous devenions fatigués de cette pandémie qui n'en finissait pas. Et je dois l'avouer que moi-même, alors que je fais partie des super privilégiés, ça commençait à me fatiguer. Et pourtant, mon fonctionnement a très peu été perturbé, même pas du tout à cause du corona. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Je continue de recevoir mon AVS et ma caisse de pension, donc au niveau économique, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences. Je vis dans une grande maison, on a de l'espace autant dedans que dehors, et je pouvais continuer de faire mes promenades journalières dans la nature. Mais il y a eu une sorte de psychose qui s'installe et qui finalement affecte tout le monde. Ce constat étant fait, comment réagir? Et c'est là que les paroles d'Ésaïe que nous avons lues prennent tout leur sens. Dieu connaît nos fatigues. Elles ne sont pas nouvelles. Au 8e siècle, avant Jésus-Christ, Ésaïe les décrit très bien. Et il nous en apporte les moyens de les déposer, de s'en décharger. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et le commentaire biblique précise, ils renouvellent leur force signifie littéralement changer de force. Et je dois dire que j'apprécie les interventions de Richard Bernet qu'il a fait tout à l'heure. Et dans ses messages en général, il se réfère toujours à l'original. Il va chercher la signification du mot, soit en hébreu, soit en grec, parce que c'est vrai qu'il y a différentes façons de pouvoir apprécier un mot ou lui donner sa force. Alors, ce mot signifie « changer de force », comme quelqu'un qui pourrait changer de vêtement pour en avoir un neuf. Donc on voit qu'on fait appel à quelque chose d'extérieur. Ils prennent leur vol comme les aigles. Il y a 33 versets dans la Bible qui mentionnent l'aigle. C'est intéressant de voir tout ce que nous pouvons en tirer comme application. L'aigle est associé à la perspicacité et à la sagesse du Tout-Puissant qui perçoit chaque détail avec précision et qui scrute les cœurs et les reins. L'aigle a aussi une acuité qui est 5 fois supérieure à celle de l'homme. Il peut tourner la tête à 210 degrés. Son vol en haute altitude lui donne une vue imprenable. Ésaïe nous propose de prendre notre vol comme les aigles, c'est-à-dire de prendre de la hauteur. Et comme le dit ce petit chant que je chante souvent dans mes promenades, « Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et tu verras si tu lèves vers Jésus comme les choses pâliront peu à peu. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. » L'aigle ne dépend pas de sa force pour voler, mais il dépend des vents thermiques qu'il porte. L'Esprit Saint est le vent qui nous porte et qui nous donne de nouvelles perspectives. Alors, il faut que je change de feuille. Une chose aussi intéressante à savoir, c'est que les plumes de l'aigle se renouvelle chaque année. Chaque année, il en reçoit de nouvelles, ce qui lui permet de voler jusqu'à un grand âge et d'avoir toujours des ailes qui sont nouvelles. Et je trouvais aussi ça une très bonne illustration pour nous qui sommes renouvelés par Christ jour après jour. Et il nous en donne les moyens de pouvoir être renouvelés par la lecture de la Bible, par la communion fraternelle, par la prière. L'aigle est le seul oiseau qui porte ses petits sur ses ailes. Les autres les portent par les pattes pour éviter qu'un prédateur plus puissant ne vienne les prendre par en haut. L'aigle installe ses petits sur ses ailes, car ils sont à l'abri du danger. Il n'a pas de prédateur qui vient d'en haut. Le seul, en fait, qu'il ait, c'est celui encouru par l'homme, où il pourrait recevoir une flèche. Alors il préfère encore donner sa vie pour épargner celle de ses petits. Et n'est-ce pas là l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été percé pour nous donner la vie. Deutéronome 32, versets 9 à 11, il nous est dit pour Dieu, il l'a entouré, son peuple, il en a pris soin. Il l'a gardée comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et je termine par ce passage d'Exode 19, 14, que vous allez voir à l'écran, qui n'a pas encore apparu à ce que je vois sur le moniteur. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alors, soyez bénis et fortifiés par notre Dieu qui veut suppléer à toutes nos fatigues, sachant que c'est lui qui nous protège et qui nous met à l'abri de tout danger.